de cultive la bonne semence. J'ai oublié mon verre d'eau. Ça va être dur. Ah, chérie, merci. Donc, cultive la bonne semence. On va aller dans la suite de tout ce qui a été dit. Alors, moi, j'aime beaucoup lire les paraboles de Jésus parce que les paraboles de Jésus, eh bien, elles nous frappent et Jésus nous a frappés par sa sagesse qui était d'une simplicité, en fait. Il utilisait toujours des images et puis ça semble tellement clair, tellement simple et en même temps, ça touche notre cœur parce que c'est tellement réel. Et on va lire un long passage et dans Matthieu 13, versets 3 à 23. Alors, on connaît bien cette parabole, on l'aime bien, donc on la lit. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, donc c'est Jésus qui parle, hein, vous avez compris, il, c'est Jésus. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus, t'es gentil, mais oui, on entend, non? Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses étouffent cette parole. Elles la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça va, c'était long, hein? La parabole du semeur. Alors la première chose, au verset 3, il est dit, un semeur sortit pour semer. Il sort. Et alors là, on a une parabole où Jésus nous explique, voilà, le semeur sort, il sème, et on a toujours la même semence, mais dans cette parabole, eh bien, Jésus nous parle de terrains différents. Et il nous parle ici de trois terrains différents. Et ensuite, il va donner l'explication. Mais avant de donner l'explication, il va expliquer quelque chose. Les disciples viennent et ils lui disent, mais attends, pourquoi tu leur parles en parabole? Ils comprennent rien du tout. Et toi, tu continues de leur parler en parabole. Et si vous lisez Matthieu 13, c'est dans ce chapitre où Jésus s'enflamme. Hop, et il nous sort beaucoup de paraboles. Et eux, ils leur disent, mais attends, pourquoi tu leur parles en parabole? Et il leur dit, mais ils ont pas de, je le fais parce que leur cœur est endurci et ils n'ont même pas les yeux pour voir et ils n'ont pas les oreilles pour entendre. Et ma question ce matin, c'est est-ce que nous, on a les oreilles pour entendre et est-ce qu'on a les yeux pour voir? Est-ce que vraiment on voit et on entend ce que le Seigneur nous dit jour après jour, semaine après semaine? Et puis, on met en pratique. On a entendu la semaine passée, on a entendu il y a 2 semaines, et chaque dimanche, on est là. Et est-ce qu'on vit vraiment la parole de Dieu? Alors, Jésus nous parle de ces 4 terrains différents. Et il dit, ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de quoi? De leur cœur. Et c'est ça qui m'a frappé, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et pour que je les guérisse. Donc il y a une question de cœur. Et les 3 terrains nous représentent les plusieurs types de cœur qu'on peut avoir, plusieurs types de terrains qu'on peut avoir. Alors ce matin, on va jardiner et on va se poser des questions sur l'état de notre cœur et on va devenir des cultivateurs. Et Jésus prend vraiment des images parlantes. Le semeur qui sort pour semer. Alors le premier, on a un problème, c'est quoi? On va lire le premier, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Premièrement, Satan est là, il agit. Et la première chose qu'on comprend, c'est que lorsqu'il y a une certaine semence qui est semé dans un cœur, et bien parfois Satan vient et il vient arracher ce qui a été semé. La deuxième, et bien plus loin, au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Alors là, la personne entend cette parole, automatiquement, tout de suite, la reçoit avec joie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas assez profond. Et là, on a quoi? Eh bien, on a il n'y a pas de racine en lui-même, du coup cette semence ne perdure pas, elle manque de persistance, elle ne persévère pas, elle ne dure pas, elle est peu profonde, elle n'est pas enracinée, il y a un manque de maturité, il y a un manque de compréhension spirituelle. Ensuite, la troisième, au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse, il n'y a pas de fruit. Donc souvent on dit Satan, 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 mais là on voit clairement 3 types de terrains et 3 types qui ne sont pas vraiment adaptés. Et moi quand je lisais cette parabole, je me disais mais le semeur il n'est pas malin, parce que le semeur il sème à tout va. Il se promène, imaginez, il est avec ses graines, et puis allez hop, je lance dans les épines, et allez hop, je lance dans l'endroit pierreux, et allez hop, et à la fin je commence à jeter, eh bien où? Dans la bonne terre. C'est quand même bizarre ce semeur. Est-ce qu'il connaît son métier? Il ne sème pas au bon endroit. Il sait très bien que ça ne va pas prendre, mais il sème quand même. C'est quand même bizarre, non? Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Alors, quand on sème, avant de semer, il y a un travail à faire. C'est quoi? C'est labourer le champ. C'est préparer la terre. Et ce matin, on va préparer la terre de notre cœur. Et on va se poser la question, quelle est ma terre? Est-ce qu'elle est propice à recevoir une semence? Est-ce qu'elle va porter un bon fruit? Quel type de semence est-ce que j'ai reçu? Et est-ce que ma terre est fertile? Parce que c'est bien de lire ça et se dire, moi je suis de la bonne terre. Facile, hein? On lit ce verset, on se dit, de toute façon, moi c'est bon, je suis une bonne terre. Moi quand je lis ce verset, je me pose la question, est-ce que je suis de la bonne terre? Est-ce que vraiment la semence a été plantée dans une terre prête à porter du fruit? Et la Bible nous dit qu'on reconnaît Jésus, c'est Jésus qui dit quelque chose de simple. On reconnaît un arbre à ses fruits. Un pommier, c'est un pommier. Un cerisier, c'est un cerisier. Donc la deuxième question, ça va être, quel type de fruits on produit? Vous me suivez toujours? La bonne terre. La terre a besoin d'être labourée. Quand on parle de labour dans la parole de Dieu, on parle d'une notion d'être complètement renouvelé dans notre intelligence, que notre cœur soit transformé. Lorsqu'on parle de labourer, c'est là où il y avait un cœur sec, là où il y avait une terre difficile, là où il y avait une terre où l'eau pénétrait même plus. Elle a besoin d'être retournée, renouvelée pour recevoir une semence. Et dans Ésaïe, Jésus va parler de... On ne va pas prendre le passage parce qu'on a pris un long passage. Et Dieu nous parle et le prophète va parler de la part de Dieu. Il va dire, voilà, il faut labourer la terre. Mais est-ce qu'on va labourer toujours? Il y a un temps pour labourer, mais il y a un temps pour semer. Et souvent, nous les chrétiens, on laboure, 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 on laboure. On passe notre temps à labourer et on laboure une première fois le champ, on enlève les cailloux. Vous savez, quand vous labourez, vous enlevez les cailloux. L'agriculteur, il enlève ce qui ne va pas. Il fait des saillies. Et puis, il enlève, il voit une brique, il enlève. Et puis, à la fin de son travail, il regarde et puis il se dit, ah non, c'est pas encore parfait. Il faut que je laboure à nouveau. Et là, il recommence. Et il laboure, et il laboure, et il laboure, et il laboure. Et puis à la fin de son travail, il regarde et il va toujours trouver quelque chose. Une petite pierre, un petit problème. Et lui, il recommence tout. Et il laboure, et il laboure, et il laboure. Et la troisième fois, il se dit, mais attends, est-ce que ce champ est beau? Et puis, il recommence. Et ça représente nous les chrétiens qui sommes jamais prêts. Où on a besoin de plus de formation. Où on a besoin d'être plus dans la connaissance de la parole de Dieu. Où on dit, Saint-Esprit, j'ai encore besoin de plus de toi, parce que je ne me sens pas encore capable. Et à chaque fois que le Seigneur établit quelque chose dans notre vie qui transforme notre cœur à un moment donné, alors qu'il l'a transformé, on revient en arrière, on dit, Seigneur, c'est pas assez, transforme-le encore. J'ai encore besoin de toi. Parce que tu comprends, si je veux aller dans la rue, il faut vraiment que je sois puissant. Et puis, si je veux servir dans l'église, il faut que je sois qualifié. Il faut que j'ai fait des études de théologie. Et puis, on laboure à nouveau. Mais le premier verset nous dit, il parle en parabole, et puis le semeur sortit pour semer. Le semeur sort. C'est-à-dire qu'il y a déjà une première partie de travail qui a été fait, labourer le terrain, mais à un moment donné, vient le temps où il faut semer. Il y a un temps pour tout dans notre croissance avec Dieu. Il y a le temps où on vient à l'église, où on dit, Seigneur, voilà, je te donne mon cœur. J'ai besoin que tu vois ce qu'il y a en moi. J'ai besoin que tu le travailles parce que je veux pouvoir accepter une semence nouvelle aujourd'hui. Et je veux qu'elle puisse perdurer. Et il y a ce temps-là. Il y a ce temps où on a besoin d'être restauré. Il y a ce temps où on a besoin d'être travaillé. Il y a ce temps où notre terre a besoin d'être retournée. Ou quand il y a des graines d'amertume qui commencent à arriver, où il y a un petit peu trop de susceptibilité, où il y a un petit peu trop de fierté, un petit peu trop d'orgueil, et bien c'est là où tu dis, Jésus, j'ai besoin que tu laboures mon terrain. Parce que là, il commence à devenir sec, aride, et plus rien peut pousser dedans. Et le problème, c'est que toi, si tu m'appelles à semer, c'est que tu veux moissonner à un moment donné. Il y a la préparation du terrain, il y a la semence, mais l'objectif, c'est la moisson quand même. Et je veux semer, mais le problème, c'est que si je ne commence pas à poser mes graines, à un moment donné, je ne vais pas semer. Et en plus, je ne veux pas semer n'importe comment. Je veux pas lancer à tout va. Imaginez si la salle ici était un champ et que je semais que sur l'estrade. Il y a un problème. Je vais pas récolter de l'autre côté. Et là, c'est le Seigneur qui travaille nos cœurs afin qu'on puisse cultiver. Cultiver nécessite un effort. Johan, cultiver nécessite un effort. Vous savez, il faut passer du temps, il faut travailler. Il faut préparer nos cœurs, ça nécessite un abandon personnel, à dire « Seigneur, je viens vers toi », ça demande un effort. Et pourquoi cultiver la bonne semence? Parce qu'il y a de mauvaises semences. Et ces mauvaises semences, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toutes les pensées, toutes les choses qui germent dans notre esprit. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre et qu'on laisse. Et vous savez, pour les mauvaises herbes, vous n'avez rien à faire. Elles poussent n'importe où. N'importe comment, il suffit un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, et elle pousse même là où il y a l'asphalte entre le trottoir et la route. Et sur le, vous voyez, souvent on voit on nettoie ces endroits-là. Ça pousse n'importe où. Et le problème, c'est que dans le jardin de ton cœur, quand les mauvaises herbes commencent à pousser, elles prennent toute la place. Et comme elles prennent de plus en plus la place, tu commences à cultiver quoi? Les mauvaises herbes. Et lorsque ça se passe, il est le temps de labourer. Ça roule ? Luc 6, versets 43 à 45. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que parle notre bouche. On a une relation, cœur, trésor, parole ici. Et on va voir, on nous parle d'un homme bon, qui a un bon fruit, qui a reçu une bonne semence, et de cette semence, maintenant, il commence à y avoir des bons fruits. Et on va lire ça, on va voir ce que c'est un homme bon et quels sont les bons fruits. Éphésiens 4, verset 32, on va lire beaucoup ce matin. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. » La compassion les uns pour les autres. Le pardon réciproque les uns pour les autres, ça, c'est un bon fruit qui vient d'une bonne semence. Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Oh, c'est pas facile, hein. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ça, c'est les instructions de Dieu pour nous, pour cultiver la bonne semence. C'est des instructions claires. Pardonnez-vous. Parce que si tu ne te pardonnes pas, s'il n'y a pas le pardon dans ta vie, dans les relations fraternelles, là, qu'est-ce qui commence à pousser? Les mauvaises herbes. Et là, à un moment donné, Dieu dit, attends, je t'ai donné des instructions, tu es le semeur, je suis le maître de la moisson, moi, tout ce que je te demande, c'est de semer, je t'ai donné la semence, j'ai envoyé mon fils qui est mort pour toi, je t'ai donné une parole de vie, je t'ai donné une parole d'autorité, je t'ai donné une parole qui vraiment transforme les cœurs, ça, c'est la semence, c'est l'évangile qui tombe dans nos cœurs, moi, je suis celui qui vais moissonner un jour, et puis toi, tu es le semeur. Mais il faut que tu suives certaines instructions. La manière de semer, sème pas n'importe comment, sème pas n'importe où. Et puis quand il y a une mauvaise graine qui vient en toi, il est question de la couper tout de suite. Parce que si tu la coupes pas, je suis pas avec toi. Parce qu'on a vu il y a 2 semaines, si on aime Christ, on suit ses instructions, on suit ses commandements. Ça, c'est une preuve qu'on l'aime. Et puis on a vu la semaine passée que c'est pas facile et qu'il faut persévérer, non? C'est juste? 1 Corinthiens 13, on le connaît tous. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait pas d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Ça va? Alors quand on lit ces versets, c'est des versets qui nous... On aime bien les éviter parce que souvent quand on tombe sur un de ces versets, on se rend compte que il y a quelques mauvaises herbes, souvent. Hein. Sauf si tout le monde est parfait ici. Mais souvent, on est imparfait et on se rend compte que, waouh, Seigneur, mince quoi. Je cultive mon champ, je suis là, voilà, je suis à fond, j'ai une bonne terre. Et puis, mais tu vois, Seigneur, c'est dur là, c'est vraiment dur. Hein. J'ai un petit peu de susceptibilité là et j'ai envie de la garder parce que, Seigneur, tu comprends, c'est normal que je sois susceptible dans cette situation. Jésus dit, non, 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 je t'ai donné un champ, faut que tu sèmes correctement. Alors on va voir qu'est-ce que maintenant l'homme mauvais. Qu'est-ce que sont les mauvais fruits? Éphésiens 4, 30 à 31. Alors, ce premier verset, on l'aime bien aussi, mais... Souvent, on ne lit pas ce qu'il y a derrière. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et par rapport à ce qu'on a lu avant, et les différents terrains. Maintenant, on se pose la question, Seigneur, c'est quoi mon terrain? Est-ce que ici, tout le monde est convaincu d'être sauvé? Est-ce que ici, chacun dans votre cœur, vous êtes convaincu d'avoir été racheté à grand prix? Convaincu que maintenant le Seigneur règne dans vos vies? Si oui, la parole de Dieu nous dit que le jour de la rédemption, le jour de notre salut a été scellé par le Saint-Esprit. C'est scellé en nous, ça se discute plus, c'est fait. Jésus l'a accompli et au moment où je reconnais Christ comme mon Seigneur, je suis scellé dans le Saint-Esprit. Et plus loin, il est dit quoi? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Tout doit disparaître. Je dis, Paul, t'es un sacré quand même. Mais quand Paul parle aux Éphésiens, vous constatez, il leur dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il lui dit, il faut que tout disparaisse du milieu de vous. Parce que Paul est conscient que personne n'est parfait. Paul est conscient qu'il y a des problèmes. Paul est conscient que tout n'est pas cette perfection dont la Bible nous parle, que voilà, on est saint, on est revêtu d'une nature nouvelle, qu'on est une nouvelle créature. Il comprend qu'il y a toujours, et c'est Paul qui nous parle de cette dualité en nous, de la chair et de l'esprit. Alors il donne des recommandations. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que vous avez été scellés, et c'est plus important que tes petits manques de pardon. C'est plus important que ton sentiment de rejet. C'est plus important que ces choses-là parce que je suis vraiment mort en fait pour toi et que maintenant il est temps que tu vives cette nouvelle vie. Et il est temps que tu me laisses labourer ton cœur pour que je puisse maintenant travailler et mettre une semence qui dure éternellement. Parce que la semence que je veux te donner, c'est une semence éternelle. Que quand tu commences à penser trop à ton travail, qu'il n'y a plus beaucoup de Dieu dans ta vie, que ton travail devient ton Dieu, les soucis dans ton travail, c'est compliqué, que tu es accablé et toutes ces choses-là, quelque part, tu es en train de tasser la semence de Dieu et tu mets une autre semence, ça devient ta priorité et tu ne vois pas l'œuvre de Dieu grandir dans ta vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait, moi, Dieu, mon Père, c'est celui qui est le maître de la moisson. Il t'a donné la semence et il te donnera le pain pour vivre tous les jours. Parce que ce qui est plus important, c'est ton éternité. C'est là où je t'ai scellé, à côté de moi, en mon fils Jésus-Christ. Et il faut que ce soit clair dans ton cœur. Parce que si ce n'est pas clair, tu vas commencer à laisser grandir des nouvelles choses. Et peut-être que tu es cette semence qui a grandi là, sur le bord du terrain. Et nous, on a vu beaucoup de gens ici passer dans l'église. J'aime Jésus, ouais. Et puis, être touché par l'amour de Dieu, ouais, Jésus, c'est super. Être heureux parce que finalement, voir comment on vit la foi, une foi active, où on manifeste les dons de l'esprit, où il y a la présence de Dieu, c'est beau, ça donne envie. Quand vous voyez la belle crinière de Samuel, vous vous dites, waouh, sortir comme ça dans la rue, c'est beau, quoi. Un beau gosse comme ça. On se donne envie les uns les autres, ça donne envie, on veut goûter au meilleur. Mais on oublie qu'il faut cultiver. On oublie qu'il faut cultiver notre cœur. Et que ça nous appartient. Dieu a dit, moi je vous ai envoyé la semence, la parole de Dieu, celle qui libère. Mais ton cœur t'appartient, donne-le-moi, libère ton cœur pour moi pour que je puisse travailler et prends-en soin. Prends soin de ta culture. Parce que la semence est éternelle. Va pas perdre quelque chose d'éternel pour quelque chose qui est sur cette terre insignifiant. Pour quelque chose qui va faire son temps. Pour ta carrière qui sera autant d'années. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel en fait. Ce n'est pas l'essentiel. Tu dois comprendre que ton cœur y a en moi. Au-delà de tout ce que tu vis. Au-delà des circonstances. Et ça, c'est notre combat tous les jours en tant que chrétien. Parce qu'on croit en un Dieu qu'on ne voit pas. Qu'on n'a pas, entre guillemets, connu. Moi, je ne me suis pas assis à la table de Jésus. Je n'ai pas discuté avec comme les disciples. Mais ce qui me frappe, c'est Jésus qui marchait avec ses disciples et il est en train de les qualifier pendant 3 ans. Il leur a dit pendant 3 ans, mais quel manque de foi vous avez, franchement. Mais il leur a dit, en fait, j'ai préparé des choses pour vous, vous êtes élus et vous allez avoir part au royaume de Dieu. Et moi, je ne veux pas être parfait, mais je veux que Jésus puisse dire, attends, mais je t'ai qualifié, mon gars, je vais te qualifier toute ta vie parce que je veux que tu sois à côté de moi. Mais le principal, c'est de dire, Seigneur, voilà, mon cœur aride, mon cœur souillé, je veux le déposer devant toi. Et ça, c'est un acte d'humilité. Et pour nous, les hommes, c'est plus dur. Hein, parce qu'on est bien fiers. Hein. Pas évident. Hein. Pour les femmes, souvent, c'est plus simple. Hein. Une fois qu'elles ont décidé, on y va. Hein, Louise ? T'as décidé, toi ? C'était si... Hein, on décide, on y va. Mais cette position de dire, Jésus, voilà, mon cœur est vraiment à toi maintenant. Ça va ? On me suit ? Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, ça c'est le verset préféré d'Élise, un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ah ! Alors qui a un cœur de chair ce matin ? Qui a une culture prête à être travaillée par le Seigneur, qui a une semence qui va toucher l'éternité. Moi, je ne veux pas être cette petite graine qui a fleuri pendant 10 ans et qui est venue pendant 10 ans à l'église et qui, au bout de 10 ans, il y a eu quelques problèmes et puis, bah, je suis balayé. Je ne veux pas être cette graine qui s'est auto-enseignée pendant des années et puis qui a essayé de goûter à des grandes choses spirituelles mais qui finalement n'avait pas de profondeur. Et c'est ça qu'on doit se poser comme question. Est-ce que mon cœur est prêt à recevoir une semence nouvelle ? Est-ce que je suis constamment en train de labourer ou est-ce que je sors pour semer ? Vous me suivez ? Et encore Ésaïe, on ne va pas lire. Mais Ésaïe qui nous raconte cette histoire de semence, qui est une semence parmi les eaux, parmi la crue. Et puis le semeur, lui, c'est l'eau. Et puis il y a cette crue. Et finalement, tout le monde se dirait, attends, ce n'est pas le moment de semer, c'est la crue, il y a beaucoup d'eau, il ne faut pas semer à ce moment-là. Ce n'est pas important de semer à ce moment-là. Et puis il est dit que des pieds des bœufs, eh ben, vont s'enfoncer et puis il y aura une semence qui va croître. Parce qu'on pense que eh ben, dans notre vie, quand c'est difficile, il faut arrêter de semer. Voilà, tu comprends, ma vie, elle a changé, je me suis marié, j'ai un nouveau travail, je compte faire des enfants. Et puis, pour l'instant, la semence, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour moi, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de ma famille. Tu as arrêté de semer à ce moment-là. Et quand tu arrêtes de semer, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des mauvaises herbes qui vont commencer à grandir. Et on ne s'en rend pas compte. Et Ésaïe nous dit, mais en fait, il faut semer en tout moment, même dans la tempête, même quand ce n'est pas facile dans ta vie, il faut continuer de semer. Parce qu'à un moment donné, l'eau va reculer, et puis dans la terre qui était bien meuble, la semence va aller profondément, et quand les animaux vont revenir maintenant, il y aura une semence et ils pourront manger. Et là, tu vas récolter beaucoup. Et c'est ce que Ésaïe nous donne. Et il nous parle de ça. Et ça, c'est une leçon, c'est une instruction que le Seigneur nous dit. Constamment, continue de semer dans ton cœur, dans ta vie. Continue de donner. Continue de travailler ton cœur en tout temps, même quand c'est dur. Même quand tu n'arrives plus à avancer. Moi, j'ai une parole de mon père qui dit, parfois, tu ne peux plus avancer. Parfois, tout est contre toi. Parfois, ce n'est pas facile. Les circonstances, tout, il n'y a plus rien. Mais là, il faut faire quoi ? Tu ne peux plus avancer. Il faut résister à ce moment-là. Mais il faut continuer de semer dans ton cœur, dans ta vie. Jésus, j'ai besoin de toi, il faut que tu sois là, il faut que tu te manifestes. Parce qu'à un moment donné, la crue va se retirer. Là, tu vas récolter ce que tu as semé pendant tout ce temps de difficulté. Et ça, c'est des instructions. Semer constamment. Alors, on a la semence de nos vies, mais on a aussi la semence qu'on a reçue. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit la donner. Quand tu donnes, tu reçois. La bonne nouvelle, on va dire, Jésus, pour moi, évangéliser, c'est trop difficile. Tu comprends, je suis timide, et puis voilà, puis ceci, puis machin, puis aller dans la rue, dans mon travail, tu comprends, Seigneur, bah, c'est pas l'endroit où il faut évangéliser. Attends, voilà. Et puis on a toujours des excuses pour l'évangélisation. On a toujours des excuses pour parler de Dieu. On a constamment des excuses. Mais en fait, ça, c'est exactement cette mauvaise graine qui vient en nous, et c'est Satan qui essaie de voler notre semence, alors que toi, tu as reçu une semence de vie éternelle. Jésus, il te dit, mais c'est toi le semeur, en fait. En fait, c'est toi le semeur. C'est chacun de vous les semeurs. Il faut que vous lanciez à votre tour la semence. Parce que si tu fais que labourer, c'est bien, mais tu vas trouver que les problèmes dans ta vie, et puis tu vas travailler sur ta chair, mais à un moment donné, il faut semer, il faut donner. Et puis, il y a ces pensées qui viennent, mais tu n'es pas capable, c'est pas possible, tu ne peux pas le faire, c'est pas pour toi, mais tu es trop timide, mais tu comprends, ils s'en fichent de l'évangile. Et il y a toutes ces pensées-là. Alors on est bien à l'église, mais dans le milieu du travail, c'est plus compliqué. Avec les copains, c'est plus compliqué. Et moi, je me suis retrouvé il y a trois semaines en déplacement, et je me suis retrouvé avec des hommes là, du bâtiment. Et puis, on va manger, et puis on parle de plein de choses. Et puis, ils me disent, vous savez, moi, le mariage, ça vient quand ça doit se sentir. Ça doit se sentir. Purée, je dis, j'ai jamais entendu ça, le mariage, ça doit se sentir. Purée, moi, j'ai rien senti du tout. C'était ma femme, j'ai pris une décision, point. J'ai pas senti que je devais me marier. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Et vous êtes là tout seul avec vos petites convictions chrétiennes. Et puis l'autre, il te sort un truc comme ça et tu dis, comment je peux lui expliquer en fait? C'est bien plus profond que ça. Et c'est là où notre semence, elle doit porter du fruit. Et il faut balayer toutes ces pensées qui te limitent. Parce qu'en fait, tu limites Dieu concrètement. Tu limites Dieu d'une force et tu acceptes le mensonge de Dieu. Et le premier commandement, c'est pas labour ta vie constamment. C'est aller, faites de toutes les nations des disciples. Alors, on ne demande pas de tous être pareil, de tous aller dans la rue, de tous faire ceci, cela. Mais là où on est, de libérer notre semence. Que tu saches parler ou pas, tu n'as pas besoin de parler pour témoigner, en fait. Et il y a toutes sortes de façons de semer. Ça va? Celui qui sème peu, notre objectif, c'est quoi? La moisson. Moi, je veux moissonner et je veux me retrouver à côté de mon Père céleste à la fin des temps et dire, Jésus, bah tu vois, eh ben j'ai bien travaillé et il va me donner ma récompense. Parce que c'est facile de dire, Seigneur, j'attends la moisson sur cette terre, mais je vous rappelle que les disciples, ils ont manifesté la puissance de Dieu, ils ont manifesté la gloire de Dieu, ils sont morts de façon atroce, ils ont donné leur vie de manière terrible. Et puis, où est-ce qu'ils disaient, c'est un honneur de mourir différemment que le Christ. Parce que là-haut, c'est là-bas que j'aurai mon trésor. C'est pas sur cette terre. T'attends pas à recevoir ton trésor ici, tu auras la bénédiction, tu auras la faveur de Dieu, tu auras l'abondance, tu auras toutes ces choses-là. Mais tout ça, même les bénédictions de Dieu sur cette terre, elles sont passagères. Ce qui compte, c'est ce qu'on va avoir là-bas dans l'éternité. Peu importe les circonstances de notre vie. Est-ce que c'est juste ou pas? Alors, quelle est ma question? C'est quel est l'état de ton cœur? Quel est ton terrain ce matin? Vous savez, dans notre vie, on n'a pas toujours le même terrain. Moi, il y a parfois, je suis un terrain, mais je suis aride. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie. Parce qu'on sait très bien ce que la parole de Dieu nous demande. On sait très bien ce que Dieu nous veut. Et puis, la semaine passée, on était en déplacement et j'ai parlé à un homme. Et moi, le Seigneur m'a vraiment révélé ce qu'il y avait sur sa vie. Je l'ai regardé et j'ai dit, Martial, tu sais ce que Dieu te demande? Et il me regarde, il dit oui. Et je le regarde, je dis, Martial, tu sais ce que Dieu te demande? Il me dit, oui. Alors je lui dis, bah alors? Et il me dit, bah je suis pas prêt. Mais je lui ai dit, t'as quel âge? Il m'a dit son âge. Je dis, si tu continues avec cette parole-là, dans 10 ans on a la même discussion, dans 15 ans on a la même, parce que tu n'auras jamais bougé. Attends pas d'être parfait. Sème et Dieu va te qualifier. Ça marche? On est ensemble ou... Ah, Jésus, aide-nous. Alors, pour vous donner des petits... on va conclure tout ça. Pour vous donner des nouvelles, la semaine passée, on a été... Qui connaît Clément et Murat? Clément et Murat, ouais. Vous vous souvenez d'eux? Donc, sachez qu'ils ont été mariés la semaine passée dans l'église... une église catholique, donc c'était le phare qui organisait le mariage, d'accord? C'était pas le curé était même pas présent. Et on a vu un beau mariage. Ils se sont mariés civilement avant de partir à Gap, et ils ont fait leur mariage donc devant Dieu le samedi et ils avaient gardé leurs alliances jusqu'à ce jour-là. Et c'était beau, moi ça m'a touché. Parce que pour eux, le plus important, c'était le mariage devant Dieu. Et là, il y avait 200 personnes dans la place, c'était 200 personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et là, c'était le temps de labourer les cœurs. Et lorsqu'on a prêché l'évangile, lorsque les chants ont été chantés, on a pu voir sur une heure et demie de temps comment les cœurs ont commencé à s'ouvrir. Parce qu'au début, vous commencez à chanter et puis c'était dur, hein, Louise? Les deux premiers chants, là, hein, Antonia? C'est pas facile, hein? Et ensuite, on a pu prêcher l'évangile, on a fait l'alliance et puis on a chanté deux chants. Et là, les cœurs ont commencé à s'ouvrir, hein, Joe? Et on a vu comment la parole de Dieu, elle laboure les cœurs. Ce n'est pas nous qui essayons de convaincre, mais c'est la présence de Dieu qui se manifeste et qui laboure un cœur. Et là, Dieu, il est là, il regarde et il dit, quand est-ce qu'il y en a un qui va oser me dire, Jésus, je veux te connaître? Parce que la terre, elle est remuée, 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 on sème des graines. Et puis nous, on aimerait bien voir, Samuel, lui, c'est des sacs de graines qu'il jette. Et il prend l'eau, allez, poussez maintenant, c'est maintenant que je veux moissonner. Lui, c'est comme ça. Vous allez avec Thierry, c'est encore pire, lui, c'est viens ici maintenant, reçois Jésus. C'est un feu, vous voyez. Mais en même temps, nous, notre but, c'est quoi? C'est de semer. Alors on a semé, et on a vu les cœurs, on a eu des témoignages puissants, les gens qui étaient touchés, les gens qui étaient les plus virulents avec Clément et Murat, qui ont dit, mais on a pris une claque. C'est impressionnant, on n'a jamais entendu ça. Et Clément, il me dit, c'est ceux qui nous font la guerre pour notre foi, qui ont été touchés. Comme quoi, les cœurs les plus durs, il n'y a jamais, jamais, jamais de limite pour Dieu. Alors pourquoi nous, on va limiter Dieu? Parce qu'on voit notre collègue qui fait la tronche constamment. Mais Dieu, il ne voit pas comme nous, en fait. Et laissons Dieu la possibilité de libérer cette semence. Mais c'est à nous que ça appartient de la libérer. Ça va? Alors on a vécu vraiment un samedi fort. On a vécu un dimanche très fort aussi. Dans l'église de Loïc, donc le frère de Fred. Et moi, j'étais impressionné parce que vraiment, j'ai pu voir l'impact du ministère de mon papa. D'accord? C'est pas pour le mettre sur un piédestal, mais quand on sait, on sait. Mais quand je suis allé là-bas, j'ai vu l'empreinte apostolique. Vraiment, les gens qui élèvent pas l'homme, mais vraiment qui ont reçu quelque chose du ministère. Il y a une semence qui a été semée là-bas. Et puis quand on est arrivé, on a senti que c'était le moment d'arroser. Et puis on a arrosé, on a vu des fleurs qui ont à nouveau fleuri. Et on voit le travail de Dieu, c'est spirituel. Et il y avait un jeune garçon qui était là, timide, et puis qui n'était pas bien. Et puis on a pu prier pour lui. Et au moment où on a prié pour lui, il était baptisé du Saint-Esprit. Et on a vu ce vent de l'Esprit qui soufflait. Et cette église est vraiment liée à la nôtre. Et on va encore vivre des belles choses avec eux. Ils sont déjà venus ici. Et voilà, comme ça vous avez des nouvelles de notre week-end. Mais on doit semer en tout temps. On a Julien qui sème constamment au printemps. Hein, lui, il n'arrête plus. Noémie, elle arrose derrière. Et tout, 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 tout. Les gardiens, les vigiles, ceux qui gardent les voitures. On va avoir des prix partout maintenant au printemps. Préparez-vous. Ah ouais, c'est fort avec eux. Mais vous voyez, c'est ça la semence. Alors, on veut prier pour Canel et Anthony, ton collègue, et on a tous témoigné à un moment donné. Et c'est là où on va en venir à la semaine de jeûne. Semaine de jeûne. Il y en a qui sont déjà, ils ont déjà réservé leurs vacances, ils ne sont pas là. Semaine de jeûne, on n'est pas là. Semaine de jeûne, important. Important la semaine de jeûne. Parce que quand on jeûne et qu'on prie, c'est le moment où on laisse l'occasion à Dieu de labourer nos cœurs. Quand tu dis Seigneur, voilà, c'est ma semaine et je m'attends à toi, tu prends une position, tu dis Jésus, voilà, le jeûne, je vais jeûner de telle manière ou de telle manière. Ça chacun, ça nous appartient, c'est une conviction qu'on doit recevoir. Il faut passer du temps à dire Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je prenne un temps de côté? Est-ce que tu veux que... Voilà, ça c'est différent, c'est personnel. Mais c'est ce temps où on dit Seigneur, viens labourer mon cœur. Parce que c'est un temps qu'on met à part. Et on dit, Jésus, il faut que tu me transformes à nouveau. Parce que je veux semer différemment. Je veux être encore plus productif. Je veux être différent et je veux avoir encore plus d'impact. Et là, on laisse l'occasion au Saint-Esprit de dire, viens, souffle. Et ça, c'est dans les temps qu'on a personnellement chez nous. Où on se confronte à la parole de Dieu. Seigneur, tu me demandes ça. Ma vie, elle est comme ça. Toi, tu me demandes ça. Seigneur, je ne suis pas prêt à le faire. Je suis sincère avec toi. Mais aujourd'hui, je jeûne pour que tu changes mon cœur. Et je veux être maintenant, je veux que tu puisses me qualifier pour que je sois capable d'accomplir ce que tu me demandes. Et c'est là où on est dans le persévère. On va persévérer. Dieu, il ne va pas te tomber dessus parce que tu as raté. Mais il va t'encourager. Viens, continue. Parce que tu es dans la bonne voie. Tu es en train de cultiver. Cultiver, ça va te coûter. Cultiver, ça va demander du temps. Cultiver, il va falloir que tu... Ça va te demander un sacrifice dans ton cœur. Quand tu passes plus de temps pour ça, que tu vas dire, Jésus, mais attends, je lâche un peu la télé pour prier un peu plus. C'est un sacrifice, en fait, pour toi. Tu sais que c'est bien, mais tu n'as pas envie de le faire. Mais c'est quand même un sacrifice. Et puis, tu vas être capable de faire de plus en plus de sacrifices. Et ta semence va commencer à donner, quoi, des fruits bien plus mûrs. Ça va? Alors, semaine de jeûne. Ouais, Chanel, elle est enflammée. Vas-y, c'est fermé.
Ça va? C'est bon. Là, vous avez la version, et je sais pour beaucoup, c'est oui, mais lui, c'est, il jeûne, c'est le pasteur, et gna gna gna. Et je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui se disent, c'est pas pour moi, etc. Parce que moi, souvent, moi, j'aime pas jeûner, en fait. C'est, j'ai loupé un petit déjeuner, j'ai déjà faim. Je suis déjà, pensez à jeûner, j'ai déjà faim 24 heures avant, en fait. Donc, c'est dur, c'est vraiment un énorme sacrifice. Et à chaque fois, moi, je me retrouve face à lui, et lui, il jeûne, et lui, il bosse, il lève des poutres, il fait des trucs, et il jeûne toute la semaine. Quand je vous dis qu'il jeûne toute la semaine, il jeûne toute la semaine, et il ne maigrit pas, parce que c'est ma prière, moi. Je ne veux pas qu'il maigrisse, donc je dis, Seigneur, il jeûne, mais il ne maigrit pas, et il ne maigrit pas à chaque fois. Donc, merci Seigneur, ça c'est la parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que, donc ça c'est possible, en mode warrior, c'est possible, on peut tous le faire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis plutôt dans l'arrière-plan de cette semaine, parce que moi, je suis plus celle qui reste à la maison avec les enfants. Il est dans les leaders, aux réunions, etc. Donc, on a besoin de lui. Et donc, moi, je pourrais très bien me dire, bon, de toute façon, moi, c'est bon, j'ai pas à jeûner, je suis tranquille, je dois pas y aller, personne me voit. Mais il y en a un qui me voit quand même. Donc du coup, je jeûne moins parce que j'ai plus de mal, mais je fais vraiment, vraiment, vraiment l'effort de le faire. Et l'année dernière, c'était le jeûne du mois de novembre, je crois. Ouais, c'était ça. Et en fait, j'ai eu, ça faisait des mois et des mois que je demandais à Dieu une réponse dans un domaine très précis de notre vie. Et il me fallait une réponse et je ne la trouvais pas. J'avais fait des jeûnes personnels, j'avais eu des temps de prière personnels, je demandais à Dieu, j'avais cherché dans toutes les feuilles de la Bible où est-ce qu'il y avait ma réponse, et je ne la trouvais pas, et ça n'allait pas, et je ne trouvais pas. Et je me suis dit, cette semaine de jeûne et prière, je vais la consacrer pour ce domaine-là. Alors, je priais pour les autres sujets, mais j'avais inclus ce sujet, et je m'étais dit, il y aura une puissance parce qu'on est tous ensemble en fait. Le jeûne collectif, la prière collective fera que ça va aller. Et Alex est parti à la réunion, je pense que c'était la dernière réunion, et il avait une session à prendre, je pense que c'était 17h ou 17h30, on dira 17h pour arrondir. Et puis moi je repassais à la maison, je faisais mon repassage et je priais en fait. Parce que quand on repasse, on n'a rien d'autre à faire. Alors, je priais à chaque fois. Et je priais, les enfants étaient sages. Et puis à un moment donné, j'en ai un peu marre. Ça faisait genre une heure que je repassais, j'en ai un peu ras-le-bol. Je dis, je vais faire une pause. Pause Facebook, hein. Voilà, c'est très spirituel. Et puis je regarde forcément l'heure. Parce qu'en fait, je regarde mon téléphone. Et je vois 17h. Voilà, c'est tout. J'ai retenu, il était 17h. J'ai fait ma pause à 17h. Et là, je tombe sur un article sur Facebook qui me donne toute la réponse à ma question. Mais une conviction qui est tombée dans mon cœur. Et quand Alex rentre, je lui dis, faut que je te parle. C'est bon, c'est décidé, c'est comme ça qu'on va faire. Et il me regarde et il me dit, et puis il me dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, ce soir, on a prié pour que la révélation tombe. Et je dis, à quelle heure t'as prié? Il dit, c'était ma session. Et il me dit, j'ai dû prendre ma session à 17h parce qu'ils s'étaient relayés, ils se relayent leur quart d'heure ou leur demi-heure dans les réunions. Je dis voilà, au moment où ils ont prié pour la révélation, moi j'ai reçu ma révélation. Donc c'est pas parce qu'on est au travail, c'est pas parce qu'on peut pas participer à une réunion, parce qu'on est, j'y pense, infirmier, toutes les professions, on a des horaires en décalé. C'est pas parce qu'en fait on peut pas être dans la cocotte minute, là, dans la chaudière, qu'il n'y a pas toutes les répercussions qui vont aller sur le côté. Moi, j'ai eu ma réponse et ça a changé une bonne partie de ma vie. Et je remercie vraiment Dieu. Et, c'est pas, et j'ai inclus mon sujet également dedans. Moi, c'était un sujet personnel, mais si vous, c'est des sujets que vous avez besoin de partager, vous pouvez aussi le faire. Donc, en fait, le jeûne et la prière, toutes ces personnes qui sont là ce matin, c'est tous, on doit tous être mobilisés dedans, à des degrés peut-être différents. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que moi, ça m'a vraiment touchée. Et pourtant, j'ai vraiment souffert pendant ce jeûne. Donc, voilà.
Ah. Donc le jeûne et prière, c'est juste arriver à dire Seigneur, j'ai mes problèmes, j'ai ma vie, voilà, elle fonctionne comme ça. Mais tu vois Seigneur, l'éternité est plus importante pour moi. Et Seigneur, ta grâce me suffit. Et en fait, quand vous jeûnez, vous dites Seigneur, j'abandonne mon steak. Hein Joanne, t'aimes bien les bons steaks. J'abandonne mon steak concrètement. En fait, le jeûne, c'est manifester concrètement votre état de cœur. C'est dire, Seigneur, ça me coûte, mais c'est plus important pour moi là-haut et ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Je n'ai même pas besoin de manger, que ta grâce me suffit. Et dans toute ma vie, dans mes problèmes, ma situation au travail, ta grâce me suffit. Même si je perdais maintenant mon travail, ta grâce me suffit. Même si dans ma famille, les problèmes ne se résolvent pas, ta grâce me suffit. Même si je suis encore malade demain, ta grâce me suffit. C'est ça le jeûne. Ça va? Et moi, je suis convaincu qu'on va vivre une semaine puissante. Hein, Nadia? On va s'occuper de tes enfants dans la prière. On va les écraser, hein? Spirituellement, quand je dis ça, c'est ah, Seigneur, viens les toucher. Joanne, on va s'occuper de ses yeux parce qu'il y en a marre, hein, Joanne? On va s'occuper de chacun de vos problèmes. Donc venez, on va prier pour chacune des choses. Bien sûr, il y aura des sujets et on va dire Seigneur, voilà, ta grâce nous suffit. On veut pas se lamenter devant toi. Voilà, il y a ce problème-là, mais je veux te dire que ta grâce me suffit. Mais maintenant, je remets mon sujet devant toi parce que tu n'es pas un père sévère. Tu as un Dieu qui va me donner de bonnes choses et je sais que tu vas me bénir. Ça, c'est l'attitude du jeûne. Ça va, vous me suivez? Alors, Antonia, elle va nous encourager. Elle va nous expliquer cette semaine de jeûne. Et puis, ensuite, on va prier un petit peu.
Ah, c'est cool, hein, ils ont déjà fait le boulot. Moi, je vais vraiment vous expliquer le thème parce que chaque année, quand on a une semaine de jeûne, nous, pour que vous sachiez, avec l'équipe d'intercession, on jeûne avant, on prie avant, on prend ça vraiment très à cœur, très au sérieux. On demande vraiment à Dieu de libérer une pensée parce qu'on sait que c'est très important pour nos vies, mais aussi pour la vie de l'Église. Donc cette année, c'est que ton nom soit sanctifié et sachez qu'on ne le fait pas régulièrement. Donc c'est pour ça que ça nécessite un sacrifice, c'est toute une semaine. Mais sachez qu'on ne vous le demandera pas 15 fois par an et je pense que s'il y a une victoire à saisir dans votre vie, c'est bien pour vous que vous l'ayez maintenant et pas dans 15 ans quand même. Donc c'est vraiment on part au combat. Que ton nom soit sanctifié si vous voulez, ça veut simplement dire que ton nom soit respecté. Ce matin on a chanté le nom de Jésus et ton nom soit sanctifié, c'est aussi la première phrase du Notre Père. Après le Notre Père qui est aux cieux, vous vous souvenez, c'est un peu nous, on veut remettre là, pendant cette semaine, les choses dans l'ordre. On commence dès le départ. C'est Dieu, on te remet à la place que tu dois avoir. Et le but, c'est qu'on commence du lundi au vendredi. Samedi aussi, c'est un jour de jeûne, sauf qu'on ne se retrouve pas ici. C'est un jeûne personnel, chacun à sa discrétion. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, Seigneur, on met à plat chaque domaine de notre vie et là où tu n'étais plus le maître, tu redeviens le maître. Là où tu n'étais plus respecté, là où je t'avais plus écouté, là où j'avais oublié ta sainteté, je t'appelle, reviens. Et c'est juste ce qu'Alexis disait, c'est que parfois on n'est pas prêt, mais justement on dit Seigneur, là où je galère, là où je trime, je demande ton intervention divine. Et donc voilà, on va faire le sacrifice qu'il faut, on va se triturer. Moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pris une semaine de congé parce que je me dis le royaume, il est plus important que mon petit salaire d'ingénieur et je veux vraiment mettre Dieu à la première place, pas uniquement pour ma vie parce que ma vie finalement, vous savez, mourir m'est un gain, elle n'est pas vraiment, franchement, vivre, c'est la galère, je vous le dis. On sera mieux au ciel, mais c'est pour que le règne de Dieu, il arrive vraiment sur cette terre et qu'il prenne plus d'ampleur et que d'autres personnes aient la vie. Vous savez, moi j'ai la vie, j'ai la joie de vivre, hein. Je dis que c'est la galère, mais vous savez que j'aime bien rire. Mais il y en a plein qui n'aiment pas rire, qui sont malheureux. Ben, on est là pour combattre. Et vraiment là où il y a des sujets qui persistent depuis des années, la Bible nous dit aussi que dans le jeûne et dans la prière, il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière, mais il y a aussi certaines situations qui sont insurmontables, mais par la prière, par le jeûne, on y arrive. Et ben, on est là pour ça. Donc, sentez-vous vraiment impliqué dans la situation. Vous n'avez qu'à lever votre main devant votre Dieu et lui dire j'adhère à ça. Comme ça, vous avez un peu la vision de tout ce qu'on veut faire pendant cette semaine. Donc, je rappelle, chaque jour, alors le jeûne, c'est quelque chose de très personnel, comme disait Chanel. Mais il faut que ça soit un sacrifice. Là où je veux vraiment vous sensibiliser, c'est que ce n'est pas non plus une blague, c'est vraiment un sacrifice. Si à la fin de la semaine, vous êtes en train de rire et qu'il ne s'est rien passé dans votre vie, vous n'avez pas pris la chose au sérieux. Par contre, si c'est un sacrifice pour vous, chaque jour, ça sera un sacrifice et chaque jour, ça sera difficile. Mais c'est là où vous allez vous rendre compte que la difficulté, à la fin de la semaine, ça va être « Ah, c'était difficile, mais Dieu m'a aidé. » Ce n'est pas un truc de personnel où vous dites « j'ai fait ça ». Non, vous allez voir la grâce de Dieu en action dans votre vie. OK ? Et vraiment, ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est ne vous mettez pas non plus des choses trop élevées, parce que le but, ce n'est pas que vous soyez dans la culpabilité à la fin de la semaine. Ça, moi, je refuse ça. Franchement, je vous le dis. Je dis au diable, tu ne nous auras pas avec la culpabilité, parce qu'on veut finir ce jeûne. On veut le commencer avec la victoire. On veut le finir avec la victoire. Donc, les gars, moi, je vais jeûner à sec pendant une semaine. Ça ne me pose pas de problème. Mais vous ne devez pas commencer à vous mettre la même chose que telle autre personne et vous retrouver mardi en train de bouffer un hamburger chez McDo parce que ça ne va plus, quoi. Donc, si pour vous, ça va être vraiment compliqué, si c'est la première fois que vous jeûnez, soyez vraiment stratégique, soyez malin. Peut-être que toi, ce qui est précieux pour toi, c'est le petit déjeuner. Ben, sacrifie ton petit déjeuner pendant une semaine. Si c'est le déjeuner, en tout cas, fais quelque chose que tu vas réussir, mais qui va te coûter. OK ? C'est clair ? Donc, on n'est pas tous des Alexis à aller couper du bois pendant qu'on n'a pas mangé. Mais si vous sentez de le faire, franchement, Dieu ne vous lâchera pas si vous êtes sérieux. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Faites des sacrifices, faites des alliances avec Dieu, mais respectez-les, s'il vous plaît. OK ? Côté pratique, on en arrive à chaque jour, le matin, vous allez recevoir un mail avec les sujets, parce que chaque jour, il y aura vraiment, on est sur ce que ton nom soit sanctifié, mais chaque jour, on va survoler un vrai volet. Et en fait, vous allez recevoir un mail avec des passages bibliques, avec des sujets de prière. Le but, c'est que vraiment vous semiez quelque chose à ce niveau-là. Le sujet, on vous le donne, et ben vous semez. Vous allez être prophétique dans ce qu'on vous donne et vous semez quelque chose pendant la journée. Et le soir à 20h, ici, dans cette salle, chaque soir, on se réunit ensemble, on paye le prix et on dit « Seigneur, on s'attend à toi ». OK ? Est-ce qu'il y a des questions pratiques ? C'est bon, là, j'ai tout survolé. Une personne va rentrer avec des interrogations. On m'a dit pendant 3 semaines, là, les gens, ils comprennent pas. J'espère que là, c'est plus clair. Si vous avez jamais fait, venez, l'aventure, elle sera marrante. Et si vous voulez, après, on parlera de nourriture et on mangera même si vous voulez. Hein.
Amen.
Donc, merci.
Alors, on va prier, préparer nos cœurs. Ça va ? Ouais. Donc les deux premiers jours, ça va.